Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le pape François au travail, il reçoit et consulte les responsables de la curie romaine et dans une première décision très remarquée, il a demandé à la congrégation pour la doctrine de la foi d'agir avec détermination en ce qui concerne les cas d'abus sexuels. Il compte donc poursuivre la ligne établie par Benoît XVI et la une de ce magazine. Scandale, expulsion de Rome, violence verbale, aggravation de la condition des plus démunis. En France, les responsables des principaux cultes sont inquiets. Et rappelle que sans respect des personnes et des fonctions et sans fiabilité de la parole, il n'y a pas de vie démocratique possible. Les locaux de Caritas perquisitionnés en Russie en vertu d'une loi entrée en vigueur fin 2012 après le retour de Vladimir Poutine au Kremlin. Explication et éclairage dans cette émission. Le pape François a donc demandé vendredi d'agir avec détermination contre les abus sexuels commis par des membres du clergé. Le nouveau pontife recevait le préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. Un communiqué du dicastère indique que le Saint-Père souhaite avant tout que soient promues les mesures de protection des mineurs et que l'on vienne en aide à ceux qui dans le passé ont subi de telles violences. Il demande également l'application des procédures prévues à l'encontre des coupables. Les conférences épiscopales doivent quant à elles s'engager à formuler et mettre en œuvre les directives nécessaire dans un domaine qui revêt la plus grande importance pour le témoignage de l'Église et pour sa crédibilité. Le Saint-Père assure que les victimes des abus sont présentes de manière particulière dans ses prières et dans l'attention qu'il porte à ceux qui souffrent. D'autres dossiers traités par la Congrégation pour la doctrine de la foi ont également été abordés au cours de cette audience. Le scandale des prêtres qui avaient abusé d'enfants et d'adolescents a provoqué une violente onde de choc dans l'Église, en particulier dans des pays comme les États-Unis et l'Irlande. Benoît XVI avait demandé pardon au nom de l'Église aux victimes et il avait prôné la tolérance zéro. En mai 2011, la Congrégation pour la doctrine de la foi avait donné un an aux conférences épiscopales du monde entier pour établir des lignes directrices en matière de lutte contre la pédophilie, leur demandant de collaborer avec la justice civile. À la mi-septembre 2012, 75% des conférences épiscopales avaient envoyé une réponse. Pendant ce temps-là, aux Pays-Bas, l'interdiction d'une association pédophile vient d'être annulée par une cour d'appel au nom de la liberté d'expression. C'est une sentence qui choque. Les explications d'Olivier Tosseri.
Il est interdit d'interdire la pédophilie. C'est ce que la justice néerlandaise a statué dans un pays connu pour sa société libertaire. En cause, l'association Martigne, un club créé il y a 30 ans. Au départ, simple magazine, puis parti politique, celui pour l'amour du prochain, de la liberté et de la diversité. Il s'est finalement dissous en 2010 après un échec cuisant lors des élections. L'association avait, elle, été interdite par la justice. L'un des membres a fait appel et a donc obtenu gain de cause pour Don Fortunato Di Noto, fondateur de l'association Metter, en première ligne dans la lutte contre la pédophilie. La logique de la justice néerlandaise est irrecevable.
Cette décision va à l'encontre des droits fondamentaux des enfants, en totale contradiction avec les droits des enfants, en particulier en contradiction avec la Convention de Lanzarote. C'est un problème très grave et il est certainement en pleine évolution. Aux Pays-Bas, le parti pédophile néerlandais a été démantelé il y a quelques années alors qu'il avait recueilli 60 000 signatures dans la population néerlandaise. Si c'est vrai, et c'est vrai que la maltraitance des enfants est un phénomène défini comme un crime contre l'humanité, je ne pense pas qu'on puisse justifier le fait que certains adultes peuvent encourager la pédophilie envers les enfants.
La justice néerlandaise se base sur la défense absolue de la liberté d'expression, un des fondements du droit comme de la société dans laquelle il s'exerce. La loi européenne pourrait bien constituer le seul recours possible. Les Pays-Bas ont en effet signé le traité européen de Lanzarote sur la protection de l'enfance en 2007. Il stipule qu'une association de promotion de la pédophilie pourrait être interdite partout en Europe.
Dimanche prochain, fête de la Miséricorde, 25 jours après son élection, le pape François prendra officiellement possession de la basilique Saint-Jean de Latran, cathédrale de Rome, dont il est l'évêque. Cette basilique est la première en date et en dignité de toutes les églises d'Occident. Le Saint-Père quittera la maison Sainte-Marthe en voiture. Son arrivée au Latran est prévue à 17h. Avant de gagner le parvis de la basilique, le pape François s'arrêtera devant le palais du Vicariat pour dévoiler une plaque portant l'inscription « Place du bienheureux Jean-Paul II, pape de 1978 à 2005. La place Saint-Jean de Latran change donc de nom. Saint-Jean de Latran est l'une des quatre basiliques majeures de la ville éternelle et mère de toutes les églises. Elle est à la fois dédiée au Christ Sauveur et aux deux Jean, le baptiste et l'évangéliste. Le Latran désigne à la fois la basilique, le baptistère et les bâtiments attenants dans lesquels l'évêque de Rome a également un appartement à sa disposition. Le nom Latran provient du nom de la demeure d'une grande famille de patriciens romains, les Laterani, sur laquelle la basilique constantinienne, la première, a été élevée au IVe siècle. L'édifice actuel est une construction du XVIIe et XVIIIe siècle, la basilique primitive ayant été endommagée, détruite et reconstruite à plusieurs reprises. Écoutez l'éclairage historique de Mgr Louis Duval Arnoux, prêtre du diocèse de Paris, historien médiéviste. Il est également le seul chanoine français de Saint-Jean de Latran.
Alors, le pape a résidé au Latran depuis Constantin, c'est-à-dire depuis le IVe siècle, jusqu'au XIVe siècle. Au XIVe siècle, les papes, pour des raisons que bon, je ne vais pas les évoquer ici, sont partis à Avignon, où ils sont restés pendant trois quarts de siècle. Puis ensuite, il y a eu le grand schisme d'Occident, là, un pape à Avignon, un troisième pape à Pise. Et quand le nouveau pape élu au Concile de Constance au début du XVe siècle est revenu à Rome, il s'est installé non plus au Latran, d'abord parce que le palais du Latran était en très très mauvais état, mais surtout pour une raison idéologique, pour montrer que le chef de l'Église était avant tout le successeur de Pierre, donc il s'est installé au Vatican, là où était la tombe de Pierre. Mais le Latran est resté toujours la cathédrale de Rome, et tous les papes depuis qui se sont installés à Saint-Pierre, après leur élection, sont toujours venus prendre possession de leur cathédrale. C'est ce que va faire le pape François dans quelques jours.
L'évêque de Rome va donc prendre possession de sa cathédrale. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique?
Le pape va aller s'asseoir sur un trône qui se trouve au fond de l'abside de la basilique et qui est le symbole de cette chaire, la chaire d'enseignement. L'évêque est avant tout un pasteur, mais aussi un docteur, celui qui enseigne. Il y a donc ce fauteuil, cette cathédrale, et qui est la chaire d'où parle le professeur. C'est ça le symbole de l'installation de l'évêque de Rome dans sa cathédrale, qui est au centre de la cathédrale.
Le pape François a beaucoup insisté, déjà dès le premier jour de son élection, sur le fait qu'il est évêque de Rome. Selon vous, pourquoi cette insistance?
L'idée essentielle, c'est que ce n'est pas un pouvoir avant tout, mais que l'évêque de Rome, c'est le centre de l'unité de l'Église catholique. Saint-Pierre est venu à Rome, il a été le centre de l'Église. À ce moment-là, Rome était le centre du monde habité, connu du moins. Il s'y est établi et depuis, c'est l'évêque de Rome, successeur de Pierre, qui est au centre de l'unité de l'Église catholique. Il s'agit beaucoup plus, encore une fois, d'un ministère d'union, de cohésion de l'Église, plus que de pouvoir.
La basilique Saint-Jean de Latran a également un lien très particulier avec la France.
Il faut dire que les grandes puissances, à la fin du Moyen-Âge, se sont partagées les basiliques de Rome, les grandes basiliques. Le Saint-Empire romain germanique s'est attribué la protection de la basilique du Vatican. Les Espagnols se sont attribués la basilique Sainte-Marie Majeure, mais les Français ont pris la cathédrale de Rome. Et le lien est très ancien, puisque actuellement encore, le ciborium qui est placé au-dessus du maître-autel de la basilique, qui a été construit par le pape Urbain V, qui était un pape français, pour abriter les reliques des têtes de Saint-Pierre et de Saint-Paul, a été construit aux frais du roi Charles V, et il porte encore les armoiries du roi de France de l'époque. C'est le plus ancien témoignage qu'il y ait dans la basilique de cette relation très particulière avec le roi de France.
Monseigneur Louis Duval-Arnoux, chanoine de Saint-Jean de Latran, interrogé par Manuela à Figi. J'ajoute que le nouvel évêque de Rome sera accueilli par le cardinal vicaire Agostino Vallini, par le maire de Rome Giovanni Alemanno et par les chanoines de la basilique. La messe solennelle d'installation commencera à 17h30 en présence des prêtres et des séminaristes du diocèse de Rome. L'animation sera assurée par la chorale diocésaine. Le parvis de Notre-Dame de Paris accueille ce samedi 6 avril le 4e forum de la charité qui se tient cette année sur le thème « Servons la fraternité ». C'est la première fois que la rencontre se déroule sur ce lieu symbolique, une manière, selon Charles Gazot, diacre et délégué épiscopal pour la solidarité, d'inscrire cette rencontre dans le dynamisme du 850e anniversaire de Notre-Dame, mais aussi dans l'héritage du temps des cathédrales. Cet emplacement au cœur de Paris permet également de rendre visible l'initiative au plus grand nombre de Parisiens et de touristes. Au programme de cette journée, moments de prière, animation, conférences et témoignages sur le thème de la fraternité à Paris. Le cardinal André XXIII, archevêque de la ville, proposera une réflexion sur foi et charité et une trentaine d'associations du diocèse réparties dans 5 tentes présenteront leurs actions de solidarité. Elles seront articulées autour des thématiques les migrants, les mal logés, hiver solidaire, la solitude et présence fraternelle dans un quartier. Écoutez Charles Gazot.
Il y a beaucoup de gestes qui se vivent dans les paroisses, dans les associations, mais qui ont certainement besoin de plus de visibilité pour dire aussi le sens de la charité, qui va au-delà de la solidarité, puisque pour nous chrétiens, c'est aussi l'expression de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Un domaine qui quand même aujourd'hui est très 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 présent, c'est celui de la solitude, qui dans nos villes est très criant, qui provoque des souffrances, entre autres des souffrances psychiques, des blessures profondes, des éloignements, des gens qui sont complètement isolés. Ça touche toutes les tranches d'âge. Donc, c'est pas uniquement que des personnes âgées ou auxquelles on pourrait facilement penser, mais ce sont aussi des jeunes. Donc c'est effectivement des préoccupations que nous avons. La crise, bien entendu, joue son rôle négatif. Mais on voit aussi se lever des belles générosités pour vaincre ces fléaux.
Le pape François, à plusieurs reprises, a appelé à sortir pour porter la bonne nouvelle, pour porter la lumière, à aller à la rencontre des autres et notamment des plus pauvres. C'est un encouragement pour vous, ce sont des paroles fortes.
Le pape François va nous stimuler pour aller toujours plus en avant. Ils ouvrent les portes grandes ouvertes sur cet amour de Dieu pour tous les hommes. Et nous, chrétiens, nous avons à nous y investir et à le dire, encore le dire avec beaucoup d'authenticité à travers les petites pépites de charité que l'on trouve au cœur des hommes, du plus petit, peut-être des fois caché au fond d'une paroisse, caché au fond d'associations chrétiennes et qui veulent explicitement dire Jésus-Christ à travers ce qu'ils vivent. Bien entendu, il faut sortir, et si on est sur le parvis, c'est pour justement s'en sortir, pour sortir de nos paroisses, des fois peut-être un peu fermées.
Charles Gazot, délégué épiscopal pour la solidarité, interrogé par Hélène Destombes. La République n'est pas en danger, mais elle demande un sursaut de chacun. En France, les responsables des principaux cultes se sont dit préoccupés par la violence qui touche le pays, à commencer par la violence verbale, qui semble n'avoir plus de limites. Dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion trimestrielle jeudi à Paris, la conférence des responsables des cultes ne cite pas les récents scandales et les nombreux dossiers qui fâchent, mais elle rappelle que sans respect des personnes et des fonctions et sans fiabilité de la parole, il n'y a pas de vie démocratique possible. Les responsables catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, musulmans et bouddhistes de France constatent que la situation des personnes plus démunies et sans domicile fixe s'est encore dégradée à la faveur de la crise. Ils se disent notamment alarmés par les expulsions massives de Rome. Ils invitent les pouvoirs publics à travailler en lien avec les associations. Au cours de leur réunion, les responsables religieux ont par ailleurs évoqué la situation des otages français au Sahel. Ils redisent fermement que nul ne peut se prévaloir des religions pour légitimer mais des violences, des ségrégations et même du mépris à l'égard d'un être humain. en Russie, la vaste campagne de vérification des ONG, initiée depuis quelques semaines par les autorités, prend de l'ampleur. Ce ne sont en effet pas moins de 90 ONG qui ont déjà été contrôlées dans 47 régions. Après Amnesty International, Human Rights Watch et même l'Alliance française, les locaux de Caritas à Saint-Pétersbourg ont à leur tour subi une minutieuse perquisition. Ces inspections sont liées à une loi entrée en vigueur fin 2012, quelques mois seulement après le retour au Kremlin de Vladimir Poutine. Elle oblige les ONG bénéficiant d'un financement étranger et ayant une activité politique à se faire inscrire sur un registre d'agents de l'étranger et à se présenter en tant que tel dans toute activité publique. Les responsables des organisations contrevenant à cette loi sont passibles d'une peine allant jusqu'à 2 ans de camp. Dans le même temps, plusieurs paroisses et communautés religieuses ont été soumises à des contrôles de sécurité et certaines ont été contraintes de payer de lourdes amendes. Ces deux campagnes d'inspection sont-elles reliées? Écoutez la réponse du père Hyacinthe d'Estivel, prêtre de la paroisse francophone de Saint-Pétersbourg, interrogé par Manuela à Fiji.
Il y a en effet une perquisition des locaux de la Caritas de Saint-Pétersbourg. Une équipe de 7 personnes de différents services administratifs, aussi bien des pompiers que des impôts et de différents services de la ville sont venus pour vérifier les locaux et les comptes et d'une façon générale aussi la sécurité des locaux de la Caritas de Saint-Pétersbourg.
Parallèlement à ces campagnes de perquisition d'ONG, il y a eu d'autres contrôles, d'autres inspections qui ont touché des communautés religieuses, catholiques et même protestantes. Certaines paroisses, certaines communautés ont été contraintes de payer de fortes amendes. Y a-t-il un lien entre ces deux campagnes d'inspection ?
C'est difficile à dire parce qu'il y a en effet dans la campagne d'inspection qui vise les ONG, il y a aussi une inspection de la sécurité et donc des pompiers. Donc ça peut être lié, ça peut être indépendant. Dans le cas de Novotcherkassk, par exemple, dans le diocèse catholique de Saratov, il semble que ce soit indépendant, mais c'est difficile de l'affirmer. Il y a eu aussi dans notre diocèse une inspection de la paroisse d'Aurel. Et là, il semble que ce soit dans le cadre de la surveillance des ONG. Le but de ces inspections actuellement des ONG, c'est de contrôler les organisations qui reçoivent de l'argent de l'étranger. Donc effectivement, la Caritas en reçoit, les paroisses en principe n'en reçoivent pas, ou alors sous forme uniquement de dons ponctuels. Donc le but, c'est officiellement en tout cas de contrôler les arrivées d'argent de l'étranger, mais on n'exclut pas évidemment que ce soit aussi dans un but d'intimider les organisations religieuses.
Ces contrôles touchent-ils d'une même façon les communautés catholiques, protestantes et orthodoxes ?
En ce qui concerne la sécurité incendie, oui. Après, pour les ONG, donc ça concerne surtout les organisations qui ont des liens avec l'étranger. Donc, ce sont surtout en ce qui concerne les organisations religieuses, ce sont surtout donc soit des protestants, soit des catholiques. Il faut voir aussi que la situation dépend beaucoup du contexte local. Ici, à Saint-Pétersbourg, nous avons traditionnellement des bonnes relations avec les autorités et entre les confessions elles-mêmes et entre les différentes organisations religieuses et les autorités, les relations ont toujours été traditionnellement très bonnes jusqu'à présent. Donc on pense que ça va jouer aussi sur l'application peut-être libérale des mesures qui ont été adoptées ces dernières semaines. Dans d'autres régions de Russie, les relations n'en sont pas forcément aussi bonnes. Alors effectivement, l'application de la loi peut être particulièrement sévère et toucher aussi les organisations catholiques traditionnelles.
C'était le père Hyacinthe d'Estivel, prêtre de la paroisse francophone de Saint-Pétersbourg. C'est la plus ancienne des revues italiennes toujours en activité et dans un élan de renouveau, elle débarque sur toutes les plateformes numériques. Il s'agit de la Civiltà Cattolica, la revue bimensuelle des jésuites italiens fondée le 6 avril 1850. Le premier numéro de la nouvelle version papier et numérique a été présenté ce vendredi dans la salle de presse du Saint-Siège. Antonino Gallofaro.
La première nouveauté qui saute aux yeux, explique le directeur de la revue, c'est la mise en page et la couverture qui rappellent celle des années 70. Mais les changements vont bien au-delà de la forme. Il s'agit de comprendre ce que les lecteurs attendent aujourd'hui d'un magazine, alors que les informations sont communiquées dans l'immédiat sur de nombreuses plateformes. Selon le père Antonio Spadaro, on constate à ce propos un besoin d'approfondissement, le désir de construire des ponts entre le magistère de l'Église et la société et le monde de la culture. Par ailleurs, la Civiltà Cattolica a fait son entrée sur les tablettes dans un esprit de partage social et met gratuitement ses archives à la disposition des internautes par le biais de Google. La fidélité dans l'innovation, c'était déjà ce qui caractérisait les pères fondateurs il y a plus de 150 ans. La Civiltà Cattolica continuera résolument de s'inspirer du charisme de la Compagnie de Jésus. Enfin, la décision de procéder à des changements a été prise bien avant l'élection du pape François, mais le père Spadaro reconnaît que l'ouverture au monde prônée par le nouveau pontife est un encouragement pour les journalistes à renouveler leur mission, offrir des clés de lecture dans un monde toujours plus complexe.
C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français et sur Twitter, ainsi que sur vos tablettes et smartphones grâce à notre application en français. Bonne fin de semaine à tous.